bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léla Cadeau-Ménagie, Daniel Morin,
Jean Léla,
Tom,
bonjour,
Guillermo et Gilles. Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pasturo et nos invités sont Aurore, Auteuil et Daniel Auteuil.
Bravo.
Merci, soyez les bienvenus tous les deux, Aurore et Daniel. Aurore qui vient de découvrir un copain d'école dans la salle, c'est parfait.
C'est Daniel Morin, il avait beaucoup
ennuyé. C'est Clément. Vous serez donc à partir du 25 janvier prochain au Théâtre de Paris. Merci déjà de venir à ce micro. Dans quel état d'esprit êtes-vous tous les deux? Aurore, c'est vous qui avez la pression, Aurore, parce que...
Oh, écoutez...
C'est à vous qu'on va la mettre, en tout cas.
Bah si.
Bah écoute, on travaille bien, donc si vous voulez la pression au fur et à mesure qu'on travaille, ça en va. Il n'y a plus de place à la pression comme il y a le travail qui...
Très belle
qui...
réponse. Plus on travaille...
Et moins on a la pression.
Moins on a le trac.
Exactement.
C'est ça. Et le metteur en scène et partenaire, Daniel Auteuil, c'est vous qui avez eu l'idée de monter cette pièce ou c'est le Théâtre de Paris dans lequel vous aviez déjà officier qui vous l'a proposé?
Non, avec Aurore, on cherchait depuis longtemps l'occasion de se trouver.
Vous n'avez jamais...
40 ans
Non.
Au théâtre, c'est la première fois.
Ouais, c'est la première fois. Et en relisant effectivement les textes, j'ai trouvé là l'opportunité d'un très très beau rôle pour Aurore et aussi pas mal pour moi, voilà. Et puis aussi c'est une pièce effectivement qui a la chance de pouvoir donner plein de très beaux rôles à une troupe.
Oui, parce que vous êtes combien finalement?
Nous sommes 12 en scène et il y a une petite fille. Et la loi exige que...
Louison,
on peut faire Louison. Et on est obligé d'avoir 3 petites filles parce qu'elles peuvent travailler que 3 heures par jour. Donc on se retrouve à 15, c'est une belle grande troupe.
Oui. D'accord, nous allons reparler de ce malade imaginaire donc au Théâtre de Paris. Mais d'abord, voyons... Si vous connaissez bien nos invités, vous ne dites rien, Aurore et Daniel. Vous ne ferez que infirmer ou confirmer les réponses de nos camarades de jeu. Daniel Auteuil peut être rancunier, mais heureusement pour nous, puisqu'il revient aujourd'hui.
Il a pas de mémoire?
Alors, c'est pas loin. C'est pas loin, mais c'est pas ça.
Est-ce qu'il y a une question ou pas?
Oui, il y a une question.
C'est quoi,
il est rancunier, mais heureusement, la preuve, il vient aujourd'hui, il y a quelque chose qui permet de
dégager cette rancune. Mais il sait pas se battre, donc non, on risque
pas,
rien.
Non,
donc...
il n'a pas dit. T'as qu'à dire qu'il est lâche, ponctier. Non.
Il est pas dit gentil.
C'est rapport à la mémoire? C'est rapport à la mémoire?
Oui. Allez, je vais accepter. Non, parce que en fait, vous fâchez avec les gens, mais vous ne savez plus pourquoi. Donc,
c'est bien
oui.
ça.
Oui, c'est ça, parce que j'aime bien les gens, en vérité. Donc, oui.
C'est pour ça que vous revenez ici, en fait.
Mais je me suis jamais fâché avec vous.
Mais jamais,
jamais. Non.
Mais je fais naître un doute.
Puis on est toujours content de venir sur RTL.
Assi Nagui, vous aviez fait remarquer à l'époque que vous aviez de bons goûts musicaux. Il s'en étonnait même. Voilà.
Oui, mais ça.
Non,
c'est...
mais on va en trouver des trucs, Daniel.
Mais tu es une garce.
On me souffle. Moi, je ne fais que transmettre la formation.
Vous savez,
c'est
les goûts de chacun. C'est très subjectif.
Il avait dit goût de chiottes, mais après, je ne veux pas.
Jamais d'avis.
Si, il avait dit ça.
Bon, passons à autre chose. Quand Aurore. Non, je réfléchissais à la ponctuation.
Ah, je crois que c'était un nouvel AVC.
Non. Quand Aurore Auteuil, enfant, faisait réciter les rôles à son papa, elle avait droit en échange, comme une espèce de cadeau, à quoi?
À venir saluer sur scène avec
Exactement.
Lui.
Exactement. Ah, ça, toi, t'as bossé, toi.
Ouais. Ah, Avignon, bien, ouais. La cour d'honneur, j'imagine ouais, que c'est un beau
puis
souvenir.
Puis ça me coûtait rien.
Bonne économie.
Ouais, c'était des cadeaux. Je commençais, si vous voulez, à travailler son ego, à la déformer, quoi, pour être actrice. Et donc, elle venait saluer pour rien. Mais sauf un jour, elle grandissait, elle commençait à avoir de la moustache. J'ai dit non. Je confonds avec mon garçon. Elle commençait à grandir. Je lui dis bon, maintenant, si tu veux venir saluer, ça se mérite, voilà.
Quelle sensation on a d'abord est-ce que vous avez le souvenir de la première fois où vous êtes monté sur des planches pour saluer un public?
Oui, c'est à l'époque où il jouait la double inconstance avec Emmanuel. Je devais avoir 7 ans, je pense.
Oui.
C'est à cette époque-là. Et j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils viennent me chercher.
Pour saluer.
Bien sûr. Et tu jouais à l'époque avec il y avait Eric Elmoslino, je sais jamais dire les noms.
Elmoslino.
Comment vous dites?
Elmoslino.
Un problème de
oui, c'est elle a un problème de
du mal, j'avais
un problème de diction.
Ça va être bon pour le rôle,
c'est sympathique quoi.
Grande actrice.
Bon, c'est pas comme si c'était pénalisant. Ça
va, hein. Il y en a plein qui ont fait carrière comme ça.
Ça va Guillermo soit ici.
Vous avez pas entendu Guillermo encore.
On a un maître.
Pour finir, donc vous aviez 7 ans, est-ce que vous avez encore l'image presque gravée dans votre ADN de ce que vous avez ressenti d'être sur scène, de saluer, d'avoir des applaudissements,
enfin. J'étais persuadée que j'en faisais partie et qu'on m'applaudissait aussi. Et je sentais une grande bienveillance, un grand amour de la part des gens.
Mais c'est quoi? Mais non, mais c'est on a la chair de poule, on se dit je veux revivre ça, c'est
Je saurais pas vous expliquer,
elle venait chercher ça pour rien. En fait, c'est vrai. Parce que ça se mérite, c'est un truc qui se mérite. Moi, j'étais content, je la voyais pas beaucoup. Donc, si vous voulez, j'étais content de l'amener avec moi. Et vous savez pourquoi je faisais ça? Parce que quand j'étais petit, j'ai été petit aussi, malgré tout. Quand j'étais petit, mes parents me
faisaient... Dites jeune, plutôt.
Non, petit. mes parents me faisaient faire ça, voilà. C'est grande tradition, pardon.
Quelle est la nouvelle passion de Daniel Auteuil?
La moustache, la drogue.
Non. La jardinerie,
le jardinage, on dit.
Le jardinement.
J'ai pas longtemps qu'elle est en France.
Jardination.
C'est pleine assimilation. C'est comment ça se voit?
Non. Ni la moustache.
Alors attends, est-ce que c'est manuel?
C'est oui.
Le kung fu.
La cuisine.
Non.
Les jeux vidéo.
Sport. Non. Non.
La coiffure.
Non.
Activité. Ménage.
Activité avec les mains.
Menuiserie.
La poterie.
Non.
La...
C'est un art, oui. Mais...
La peinture. Sculpture.
Non.
L'ébénisterie.
Ah ouais. Peut-être.
Et c'est... Non, c'est pas. C'est pas les
meubles.
Non, vous aimez ça, mais c'est récent en plus. Hein. Non,
c'est récent. C'est très récent. Une douzaine d'années.
Ah ouais.
Deux ans.
Ouais.
Il y en a un autre. Le tri sélectif.
Pardon ?
Un autre indice.
Un autre indice, ouais. On en a parlé en début d'émission. On a évoqué le...
La mémoire, le travail de la mémoire.
Non, l'écriture.
Juste après. On a évoqué l'univers en début d'émission. Mmh. Avec ses mains, il s'est découvert une passion.
La boxe ?
Non.
Gifler les gens.
Non, je suis un pacifique.
Personne n'a trouvé que vous vous étiez mis... À la guitare.
Oui, mais en même temps, comment pouvait-il savoir ça? Parce que personne ne le sait, je joue que pour moi.
S'ils avaient travaillé un tout petit peu...
Oui, s'ils avaient travaillé leur émission... Voilà, c'est ça.
Bravo.
C'est tout. Et en fait, ce que vous vouliez, c'était que l'un de vos enfants
oui,
se mette...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis chanteurs, musiciens, et je me suis aperçu que chacun des enfants, machinalement comme ça, avait goût à la musique et prenait un instrument et jouait de la musique. Alors moi, c'est effectivement, dans ma famille, mes enfants se sont mis au théâtre, mais j'avais envie qu'il essaye la musique. Donc, j'ai acheté une petite guitare pour lui.
Pour Zach.
Il est gaucher, comme son père. C'est moi, son père. Il est gaucher. je lui ai mis cette guitare dans les mains, mais il m'a dit... Non, je veux une batterie. Alors, je lui ai acheté une petite batterie et pour l'encourager, je me suis mis effectivement.
Je vais surtout l'emmener chez l'ORL s'il a une voix comme ça.
Non, mais j'essaye de faire l'acteur. Entre ma fille et moi, je pense que la promo est très mauvaise. La fille a une diction de merde et le père n'a plus de voix.
Tu vas le fâcher.
Et alors, donc il n'a pas voulu jouer de guitare.
Mais si, mais ça y est mis. Et moi, au fond, j'y ai retrouvé un plaisir que j'avais abandonné il y a très longtemps parce que écoutez, ce que je raconte n'est pas du tout intéressant, mais enfin bon, il y a très longtemps, je voulais faire de la guitare quand j'étais petit garçon.
Non, mais surtout, vous aviez chanté.
Oui, mais ça, c'était bien avant. Messieurs, dames, je faisais de la trompette quand j'étais petit. C'est très difficile, à part Armstrong, de chanter et de jouer en même temps. C'est très difficile de s'accompagner à la trompette pour chanter. Alors que, voilà, c'est une passion, comment dirais-je.
Et donc, vous jouez de la guitare et vous chantez en même temps?
Non, je joue de la guitare. C'est quelque chose de tout à fait personnel.
Oui.
C'est pour moi. Je veux dire que c'est un, comment ça s'appelle, un passe-temps. Et sans aucune pression, sans aucune contrainte, je prends cette guitare.
Avec quelle méthode apprenez-vous? Parce que...
Eh bien, avec une... Et justement, j'arrive à apprendre parce que personne ne m'apprend.
Pas de prof.
Non, juste un peu avec...
La méthode d'Adi non plus, à la guitare?
Non. Mais si, sur l'ordinateur, je vais chercher les tablettes, voilà.
Tablature. tablatures.
Les tablatures. Et le, les tablettes.
Non, non, tablette,
C'est pour le,
c'est la cuisine, c'est le chocolat.
C'est chocolat. Non, ce que je veux dire, c'est sur les tablettes que j'apprends.
D'accord, très bien. à quelle occasion Daniel Auteuil a-t-il découvert qu'Aurore voulait devenir actrice?
À quand elle a salué?
Non.
Qu'il est resté sur la scène toute la nuit.
Non plus.
Je sais pas, sur une fiche d'orientation à l'école.
Pas du tout.
La première fois qu'elle a menti.
Alors, il a découvert quelque chose, mais...
Il l'a trouvé sur scène, à l'affiche d'une pièce, d'un spectacle.
À la télé?
À la télé.
À la télé?
Oui.
Ah bon?
Quand vous... C'était dans un rôle dans Juliesco et...
Ah oui, c'est le... c'est le premier rôle que j'ai fait.
J'ai fait... Je lui donne des cours de théâtre. C'est le premier rôle qu'elle a fait.
Une comédienne dans Juliesco qui fait « Mais que diantre faites-vous là ?» Excusez-nous mademoiselle, on est dans Juliesco.
Mais c'est quoi cette histoire de...
Eh ben écoutez, je sais pas.
Ça, c'est une fiche pourrie, ça.
C'est la merde.
Non, c'est une interview que vous avez donnée, Aurore.
Alors j'ai menti, bonne comédienne.
Dans elle, vous avez dit, ça faisait longtemps que je voulais devenir actrice.
Mon père m'en empêchait. Je l'ai caché beaucoup.
J'ai pris des cours en cachette. J'ai fait casting et il m'a découvert dans Juliesco.
Non, je crois que j'ai menti.
Tout est faux.
Et tu ris.
Mais oui.
Tu avoues devant la France entière que tu mens.
Mais vous avez joué dans Juliesco.
Est-ce que oui ou non, vous avez pris des cours en cachette?
Ah, en cachette, non. Je voulais faire ce métier. Qu'est-ce que je me rappelle même? C'est vieux, je suis vieille maintenant. J'avais été à l'époque. Si, j'avais été au cours Florent. Et après.
Ah, je ne sais pas, ma chérie. Voilà.
Et après, j'avais.
C'est vieux, tu as raison.
Oui, c'est vieux. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Et. Non, je lui ai dit, si, je lui ai dit que je voulais faire ce métier. Il n'était pas content parce que il voulait que j'aie mon bac et que je fasse des études, que je fasse un. Il voulait que j'aie une sécurité dans la vie, chose que du coup je n'ai pas eue. Et donc voilà, donc c'était une des raisons pour lesquelles peut-être.
Bah te voilà bien avancé maintenant.
T'es bien dans la merde. Hein.
Pourquoi Daniel Auteuil avait-il beaucoup de mal à porter une alliance pendant les tournages? À part évidemment pour draguer les comédiennes.
Ouais, à cause de ses maîtresses.
Oui, c'est ça.
Qui déteste le fait de porter un anneau.
Ah, il a les doigts qui gonflent.
Ouais. Alors je vais accepter ça, ouais.
Mais enfin, c'est pas très joli, hein. Il a les doigts qui gonflent.
On a l'impression que vous êtes malade.
Non, mais justement, on en arrive avec la maladie et le maladie imaginaire. Ouais. Vous avez un eczéma à cause de...
Oui, c'est-à-dire que plus maintenant.
Ça s'appelle le mariage.
Plus maintenant, parce que je suis heureux en... Mais, longtemps, cet objet, donc, il signifie pour toujours l'engagement, me donner de l'urticaire.
De l'urticaire. Horticaire, c'est la montre. L'urticaire, c'est la montre. Et l'urticaire.
Oui, mais c'est l'or. C'est un néologisme. C'est l'or. C'est l'or qui me
réaction
donne de la ticaire. De l'urticaire.
Ça a mis le ticaire maintenant.
Oui.
Pourquoi Aurore Auteuil est-elle le, entre guillemets, le gardien du temple de la famille Auteuil?
C'est elle qui a le chéquier.
Non.
J'aimerais bien.
on l'accepte.
Je sais pas, c'est vous qui gérez une partie des œuvres ou
non.
Elle aimerait bien aussi.
Le gardien du temple, ouais. C'est l'aîné, c'est non.
Vous êtes la seule à comprendre votre père passer 22 heures.
Non.
Vous êtes la confidente, peut-être.
Non, elle est la seule qui a un rôle entre guillemets important dans la famille.
Aucun projet n'est validé sans vous, hein?
Non.
La seule. Gardien du temple.
Ouais.
Un petit indice parce que.
Petit indice, non. Ce qui est important dans une famille, c'est que la famille de temps en temps se.
Ah,
c'est elle qui organise les dîners. Ah oui.
Celle qui cuisine.
Non.
Celle qui mange.
Non.
Peut-être.
Elle habite dans la cuisine.
Non.
Elle a un agenda.
Vous êtes pas bon du tout.
Non, mais je sais pas.
Vas-y,
j'attends de voir la réponse.
Vas-y.
Vous êtes la seule qui retenait ou rappelait à tout le monde
les anniversaires.
Mais oui, c'est ça. C'est le gardien effectivement de elle contient dans sa tête tout le souvenir de la famille. Oui.
Bah, vous envoyez des petits textos.
Autiste.
Et donc vous agissez comment? C'est-à-dire vous prévenez tout le reste de la famille d'organiser une surprise. Oui. Comment vous faites?
Non, mais n'oublie pas, c'est l'anniversaire.
Laisse-la parler.
Non, mais ça se fait naturellement. En fait, quand il y a des anniversaires, comme on n'a pas beaucoup de mémoire dans la famille.
Oui, nous sommes acteurs, hein, donc on n'a pas de mémoire. On n'a pas de diction, on n'a pas de voix.
Et pas de mémoire. Il y a des anniversaires ou voilà.
Non mais j'entends, mais est-ce que vous organisez aussi une surprise?
Non, c'est que la famille, c'est très important pour moi. Alors voilà, donc si vous voulez le petit frère, le petit dernier... Merde.
Attention, ça y est, elle casse.
Et en plus, il casse le matos.
Mes enfants, Aude, la femme de papa, ma sœur, enfin j'aime bien que... C'est important pour moi là, qu'on soit
que
tous...
Que vous renissiez.
Voilà, exactement.
D'accord. Est-ce qu'il n'y a que les anniversaires qui sont l'occasion de la réunion familiale ou est-ce qu'il y a...
Non, il y a les décès aussi.
Vous êtes un peu la Laetitia Hallyday du clan Auteuil, c'est ça le...
Non, mais est-ce qu'il y a une, comment on appelle ça, une fête de famille, c'est-à-dire une date
Écoutez, il y a tous les dimanches, il faut manger ensemble.
C'est-à-dire les dimanches, il fait à manger et on vient tous manger chez lui.
Super. Allez, dernière question avant de parler, ça va être une question facile, là ça va aller très vite, vous n'avez pas le droit de ne pas savoir. Quel est le maître, la référence de Daniel Auteuil?
Comme quoi?
Molière.
Pour toute sa carrière.
Tu veux dire
Rodi?
Molière?
Non.
Louis Jouvet,
Pagnol, ou...
Michel non. Fourniret,
non.
Sim,
non.
Le maître,
ouais, la référence, celui qui a inspiré Daniel Auteuil pour toute sa carrière.
Ah, Yves Montand,
non.
Depardieu,
non.
De Funès,
non.
Robert Rossen,
non.
Franck Dubosc. Ah, oh, c'est moche de rire.
Fernandel, je sais pas, c'est un acteur méridional ou pas?
Vous ne trouverez jamais.
C'est un acteur
français ou pas?
Vous ne trouverez jamais.
Bah, français ou pas?
Oui.
C'est toi.
Non, en fait, la réponse est personne.
Personne. Ah oui, d'accord.
Ah oui.
Ah bah d'accord. Bah,
ah ouais. Il est fier de son effet, hein, David.
Non, la réponse c'était personne.
Non, il y avait personne. Non, je veux dire par là, il y avait.
Les penseurs ont des égos démesurés, avez-vous dit? Je n'ai aucun guide dans ma carrière. Je n'ai aucun maître à penser dans ma carrière.
Oui, de belles choses ce jour-là quand j'ai dit. Non, mais je veux dire,
c'était dans Elle.
Dans Psychologie Magazine.
Ah oui, Psychologie. Oui. Non, si, il y a eu à des périodes différentes. Si, des gens qui m'ont donné avis, qui m'ont inspiré. Par exemple, des périodes comme le TNP ou Gérard Philippe ou des acteurs comme ça, la démarche de Jean Villard, cet esprit de troupe, plus tard jeune acteur en arrivant à Paris en n'ayant aucun repère et ne ressemblant à rien de ce qui se faisait à l'époque quand sont arrivés les acteurs américains comme Pacino, De Niro ou Dustin Hoffman, on s'est dit tiens, ils prennent les petits bruns maintenant. Donc ça, à des périodes différentes, ça a évolué, oui.
Alors parlons donc au Théâtre de Paris, vous serez à partir du 25 janvier en scène. Avec vous, il y aura Alain Douté, Victoire Bellesi, Pierre-Yves Bon, Natalia Doncheva, Jean-Marie Gallet, Gaël Cotta, Loïc Legendre, Cédric Zimmerlin, Laurent Bozzi et donc tous les deux, Aurore et Daniel Auteuil, dans une mise en scène que vous avez faite, ce Malade Imaginaire. Alors grâce à vous, et je vous remercie tous les deux, j'ai relu Le Malade Imaginaire. Je pensais, et je pense que tout le monde se dit « Ouais, ça va, je connais Le Malade Imaginaire ». Et de le lire, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'on ne le connaît pas, ou alors on l'a oublié depuis ces lointaines années. Alors évidemment, on retient cette hypochondriaque qui est un peu la moquerie de tout le monde et qui finit par être intronisé lui-même médecin à la fin, ce qui rappelle un peu le bourgeois gentilhomme aussi dans sa structure. On a en toile de fond quand même des histoires d'amour, enfin l'histoire d'amour d'Angélique que le père veut absolument marier et un médecin pour en avoir un full-time job à la maison à domicile entre guillemets,
ouais,
et puis tous les mensonges qui vont autour
et c'est l'histoire si vous enfin cette pièce est extraordinaire d'abord pour plein de raisons, d'abord parce que c'est la dernière pièce de Molière
au bout de la quatrième représentation,
ouais, il meurt, j'espère que j'irai à la cinquième.
Oui, il a raté.
Mais non, bien sûr, non, c'est pour
donc
faire
en février il n'y a plus rien,
allez-y en janvier, hein, vous avez quatre,
il faut venir tout de suite parce que... non. Et c'est surtout c'est l'histoire d'un Molière qui est un grand intellectuel, un grand poète, un grand acteur, un grand auteur, et est réellement malade. Et il a la force et l'audace d'écrire sur un type qui se croit malade.
Voilà.
Il écrit, il est dans l'urgence. Il en a plus ou moins plus rien à foutre, il n'a plus rien à prouver. Et dans cette pièce, il y met toute la liberté qui lui reste. C'est-à-dire que c'est dans cette pièce, il y a du Scapin, il y a du Misanthrope, il y a tout un... cette pièce aussi entre le...
Oui, il y a même des répliques qui résonnent comme faisant partie d'autres pièces. Oui,
c'est à la fois une... il y a de la tragédie, de la psychologie, de la bouffonnerie, il y a absolument tout. C'est une pièce qui d'une extrême liberté et qui correspond bien à un moment de ma vie où j'ai envie de m'exprimer librement, de dire ce que j'ai envie de faire et de tranquillement et donc de...
Sauf que le plus beau rôle, vous l'avez donné à Aurore, parce que c'est Toinette qui prend tout. Quand j'ai lu la pièce, je me suis dit, mais Toinette, c'est vraiment le ressort de la pièce.
Ah, c'est un très beau rôle, c'est sûr. Donc la barre est haute. Ouais.
Non, c'est un beau rôle parce qu'elle est, c'est elle qui manipule un peu tout le monde.
Elle est, elle a de l'empathie, elle aime profondément.
C'est la servante, pour situer. Donc elle est au service.
Mais elle est au-dessus de tout. C'est des indications qu'il me donne en fait, c'est-à-dire que comme c'est elle qui manigance tout pour que les choses s'arrangent. Ouais. Elle est très intelligente, elle a du recul par rapport aux situations et par rapport aux gens.
Elle est complice de la fille.
Elle adore la fille.
Elle est complice de l'amour, on va dire.
Oui, et de la fille aussi, c'est son amie, c'est son allié. Et elle a une profonde affection pour Argan, voilà.
Malgré les coups qu'elle reçoit,
malgré ses petits travers, mais
elle veut le protéger de sa nouvelle épouse qui ne vient qu'attendre son décès pour lui piquer son héritage.
Voilà, c'est ça. Et en même et des médecins aussi qui lui tournent autour et qui n'en veulent qu'à ses sous en fait.
Et qui lui retire peu à peu de la vie, c'est-à-dire que ce type n'est malade que de lui-même. Il n'a aucune maladie, aucune pathologie existante. Il est aujourd'hui, Molière découvre la psychanalyse et découvre les premières maladies somatisantes quoi. Ouais. Et ce type n'est malade que dans sa tête, mais à force de soigner une maladie qu'il a.
Ce que lui dit son propre frère, d'ailleurs.
Il va en crever.
Qui est l'une des scènes aussi qui fait basculer l'intrigue. J'avais totalement oublié, et c'est ça aussi de le relire, le côté un peu pipi-caca de la pièce.
Oui.
C'est incroyable.
Oui. Ben, c'est parce que la base de la médecine du 17e, elle est quand même très axée sur le caca. Hein. Donc, si vous voulez...
Sur les lavements, les flatulences.
Il y a deux façons de soigner au 17e siècle. C'est de retirer du sang, c'est de faire des saignées et de faire des lavements. On nettoie comme ça. Mais cela dit, ça reste valable aujourd'hui, dans certains cas, je veux dire, le lavement.
Non, mais j'entends, mais j'avais oublié que Molière jouait même avec les noms des personnages.
Oui. Monsieur Florent.
Monsieur Florent qui va sentir vos selles.
Oui, c'est ça.
Et puis il prend son bâton pour aller faire son affaire sur son trône.
Oui, c'est ça, vérifier si tout va bien. C'est les premiers, en fait. Effectivement, les selles d'Argan sont les premières analyses médicales qui existent. Quoi. C'est les premières radios. Voilà. Selon comment l'état de la selle, on peut dire ah bah tiens.
Non, mais le paradoxe, c'est qu'on dit souvent, et là je m'adresse aux humoristes autour de cette table, on dit souvent que dès l'instant où un humoriste fait appel soit à un bruit de paix, soit à des vannes au-dessous de la ceinture ou à pipi caca, on dit oui, il tombe dans la facilité. Mais là, d'un coup, c'est Molière qui le fait, qui est censé représenter
la perfection dans l'écriture et dans la comédie. Il élève cette maladie et ses flatulences à un niveau tel que...
une flatulence, on ne pouvait pas dire. Lui, il l'élève.
Non,
parce
il ne
les
élève pas, mais comme vous l'avez dit, cette pièce, c'est quand même une sorte de Macédoine, de mélange de genres. On a de la farce, on a une critique un peu plus sévère aussi de la médecine et des médecins, des charlatans avec tout le jargon qui est mimé dans la pièce. D'ailleurs, votre personnage, Toinette, il suffit tout d'un coup qu'elle s'habille en médecin pour se déclarer médecin. Et c'est ce qui se passera aussi à la fin de la pièce.
Dans sa maladie, en fait, il en est tellement malade de tout ça que Je pourrais même arriver habillée comme je suis là, oui. Il croirait que je suis docteur.
Ouais. Ouais. Donc en fait, les flatulences, l'épée, tout ça, c'est un ressort aussi comique, mais à côté de ça, il y a quand même le discours sur la médecine plus générale qui contrebalance et qui fait qu'on ne tombe pas dans du vulgaire.
Je veux préciser aux auditeurs qu'il n'y a pas de paix dans la pièce, c'est Nagui qui a amené ça. Non. J'ai un truc qui me fait beaucoup rire. J'étais assis d'ailleurs sur un coussin péteur, pour me rendre hommage.
J'avais oublié ça.
Il en parle parce que, si vous voulez, c'est la science de l'époque. Ouais. Et déjà, Molière a le recul pour comprendre que.
Et le nom des médecins, il y a Purgon, oui.
Florent, Purgon.
Florent, il y a Diafoirus.
Diafoirus.
Le bien nommé.
Oui, Diafoirus.
Et le notaire, lui, s'appelle Bonnefoy. C'est
le monsieur de Bonnefoy.
Il y va dans les.
Mais c'est une pièce aussi qui parle de l'amour de la vie, de l'égoïsme des enfants. De la peur de la mort. Et au fond, ce malade a une passion pour sa maladie. C'est ce qui le fait vivre. Et il se repaît. Enfin, paix, c'est pas. c'est un autre mot. il se repaît de tous ces mots, savants, que
les médecins
lui envoient, quoi.
Ouais, qui finissent en IE. Il y a toute une liste de mots et qui sont des vrais, des vrais mots MAUX de la médecine employée, puisque visiblement Molière s'était documenté, en tout cas.
Ah, ben oui, mais il avait son ami il avait un ami médecin. Et donc, la pièce est extrêmement drôle, bien entendu. Et ce que j'aime aussi, c'est-à-dire que elle laisse aussi la place au raisonnement et à l'introspection et parfois à une sorte de. Moi, ça me plaît que parfois mon personnage, si colérique, si énervé, soit un peu pas nostalgique, mais le mot. Je vous dirai le mot tout à l'heure. Il me vient pas. Parce que...
Non, par contre, il est un peu bêta, quoi, par moment.
Non, il est tyrannique. Il est tyrannique.
Bah, enfin, pardon, il
croit. Il engueule.
Il croit tout et n'importe quoi.
Mais c'est sa maladie qui fait que.
C'est ça.
Non, mais non, puisqu'il n'est pas malade.
Mais si, dans la tête.
Aujourd'hui, je sais. Bah, il est ce qu'on appelle aujourd'hui.
Il est hypocondriaque.
Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui hypocondriaque. C'est-à-dire, ça rend con.
D'accord.
Et puis, il considère aussi que seuls les médecins. Peuvent vraiment donner un véritable diagnostic. Donc il remet complètement sa confiance dans la personnalité du médecin. Donc,
absolument. Mais c'est ce que nous avons aujourd'hui. Pareil, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que quand on croit avoir quelque chose ou qu'on a quelque chose et qu'on se retrouve face à un type et il va nous dire notre sort dépend de lui. Il va nous dire oui, tu l'as ou tu l'as pas, le truc.
C'est vrai.
Donc,
la médecine aujourd'hui n'est pas dans le même état qu'au XVIIe siècle.
Je dirais que la chirurgie, non. Mais la médecine a fait certes des progrès, mais il y a beaucoup de tâtonnements toujours quand même.
Nous en parlerons avec Michel Simès.
Absolument.
Tout à l'heure. Le malade imaginaire, on a hâte de voir tout cela au Théâtre de Paris pour, n'oublions pas quand même l'essentiel, rire et s'amuser avec cette pièce qui donne en plus à réfléchir. C'est un succès annoncé, oui. Comme ville.
Alors pourquoi... Non, ne dites pas ça parce que... non, ne dites pas ça. Je vous ai entendu dans une autre émission, un truc qui me concernait. Vous aviez dit, arrêtez de dire ça. Non. Ne dites pas, on ne sait pas, on va voir. Alors, en principe, c'est
souhaite,
bien parti.
On souhaite.
Pourquoi ça pourrait être un succès, le malade imaginaire?
Non, parce que chaque fois, vous faites ça et ça peut.
Ah oui, non, non.
Vous portez la chkoumoune. Non, arrêtez.
Ça pourrait être un succès, le malade imaginaire, déjà, parce qu'un biopic sur Michel Drucker, ça marche toujours. Non, mais c'est vrai, le malade imaginaire, ça a toujours été un succès. La pièce a été jouée pour la première fois en 1673. Michel Drucker avait 17 ans à l'époque. Et non, plus sérieusement, le thème est intemporel. Un homme en parfaite bonne santé qui se croit au plus haut point malade, ça vous rappelle rien? C'est nous tous qu'on va sur le site Doctissimo. On est bien, on est plutôt en forme, peut-être une petite rougeur dans le cou, mais rien de plus. On jette un coup d'œil à Doctissimo et on se rend compte qu'on a la malaria, le sida, un petit retour de typhus en même temps. Parce que les symptômes, c'est facile de les avoir. Petite fièvre, maux de gorge, les yeux qui piquent, c'est à peu près les symptômes de toutes les maladies du monde. Et ça m'a rappelé le médecin imaginaire. Tu sais, les gens qui lui disent, mais t'as pas mal à la tête? Et lui répond, bah si, j'ai un peu mal à la tête. Les autres qui lui disent, t'as pas mal aux yeux? Bah si, j'ai un peu mal aux yeux. Et le mec qui part d'un rhume et il finit avec une brèche ostéo-méningée. Alors moi, j'adore me balader sur Doctissimo parce que dans la vie,
jamais avoir l'avis de ceux qui n'y connaissent rien. Donc j'adore Doctissimo et BFM TV. Et puis le thème du malade imaginaire, il est intemporel. C'est sûr qu'à l'époque de Molière, les malades, les médecins, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. C'était plus proche du druide que de Georges Clounet dans Urgence. Il y a une décoction tilleul, verveine, pissenlit. Pour eux, ça soignait la grippe. Pour nous, c'est un thé dans un bar bobo. Tu vois, en 1673, t'avais la peste. Tu pensais que c'était juste un petit rhume. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Puis là, on va prendre 2 minutes pour parler du forum Doctissimo. Tout le monde peut donner son avis, surtout en disant n'importe quoi. C'est en gros la version médicale des gilets jaunes. Quoi. Voilà.
C'est le principe du forum.
Alors attention, je dis pas que Doctissimo c'est pas bien. Je dis juste que celui qui va sur Doctissimo pour soigner, ça doit être le même gars qui doit s'informer sur le Gorafi. À peu près. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc Doctissimo, à partir de maintenant, tout ce que je vous dirai est vrai. Déjà, l'accueil du site, tu vas sur le site qui nous informe des tendances actuelles et nous propose les articles les plus partagés. En un, il y a les meilleures positions pour tomber enceinte. Donc on va éviter de tomber dans le grave bleu, mais j'ai quand même appris que la fellation n'était pas dans le top 10. Merci Doctissimo. En deux, j'ai les 10 bruits du corps qui doivent vous alerter.
Alors,
donc si tu éternues du coude, c'est qu'il y a un souci. Idem si tu pètes de l'oreille. Voilà. En trois, il y a les différentes maladies de peau. Alors là, je vous déconseille d'aller jeter un œil avant de manger parce que ça va de l'urticaire au crépi. Hein, t'as des mecs qu'on embrasse ou pas d'ailleurs s'ils nous écoutent, mais ils ont limite du gravier sur la gueule, c'est les allées du château de Versailles. Quoi. C'est... Et puis après, il y a des gens qui osent de vraies questions sur Doctissimo. Par exemple, il y a Taylor38 qui a créé un sujet boss après chute. Il explique son problème, tout le monde donne son avis et Taylor conclut en écrivant cette sentence pleine de bon sens qui devrait tous nous inspirer. Merci pour vos réponses, je vais aller consulter mon docteur. Donc voilà, donc merci Taylor, je me permets de te donner 2-3 tuyaux qui vont te servir. Si t'as soif, n'hésite pas à boire et si t'as sommeil, essaie de dormir un peu, tu vas voir, ça va t'aider. Bref, tout ça pour dire que les hypochondriacs ont encore de beaux jours devant eux. Finalement, Doctissimo, c'est que le malade imaginaire 2.0. Et d'ailleurs, j'ai regardé sur le site, Nagui, vous m'aviez dit avoir un petit peu mal à la gorge en arrivant.
Oui.
J'ai vérifié, selon Mimi des Yvelines, il est formel, c'est une rupture des ligaments croisés. Bonne émission.
Merci.
Nagui sur France Inter.
Cette pièce que vous mettez en scène, Daniel Auteuil, Le Malade Imaginaire, est-ce que vous en faites votre version? Puisque il y en a eu beaucoup de ces malades imaginaires, qu'est-ce que vous voulez apporter?
Ce que je veux faire avec cette pièce, c'est donner l'impression qu'elle a été écrite hier soir et la faire entendre aujourd'hui comme si c'était une pièce tout à fait contemporaine. Je veux que les spectateurs aient l'impression qu'on leur parle. Qu'ils soient témoins de scènes de ménage parfois bourgeoises. Enfin, c'est ça, voilà, je pourrais pas dire plus. J'ai envie de donner aux spectateurs l'envie de découvrir cette pièce comme si c'était une pièce récente.
Est-ce que l'on garde à ce moment-là le si j'étais que de vous, par exemple, oui. pour dire si j'étais à votre place? Est-ce qu'il faut garder, parce que pour moderniser, est-ce que
non,
vous
il
osez,
est pas question
est-ce que
de,
vous osez
de moderniser
changer
quoi que ce soit.
D'accord.
Il est question juste d'être le plus fidèle possible, mais nous sommes, on ne sait pas comment on joue au XVIIe siècle. Il est juste question d'être le plus sincère possible, le plus investi possible, le plus en ayant en tête que nous avons affaire parfois à une farce. Donc voilà. Sur le plan esthétique, j'aime les belles choses, donc j'ai un très beau décor, j'ai des belles lumières, des beaux costumes, voilà, et des acteurs qui s'amusent, voilà.
Et dans le travail, voilà ce qui nous a fait faire, ce que tu nous as fait faire, c'est qu'il nous a fait, non mais, oui. On a dû travailler très tôt en amont le texte, c'est-à-dire que moi j'étais dessus déjà depuis le mois de juin, et plus on l'apprenait tôt, plus on l'avait en soi, et plus, parce que c'est pas évident aussi de travailler.
Plus vous gagnez en fluidité.
Exactement, et c'est vrai que du coup, le fait d'avoir énormément travaillé et de l'avoir, je sais pas comment l'expliquer,
intégré,
derrière la tête.
Ouais.
Là,
non, vous l'avez intégré, donc vous n'avez plus à le réciter, vous le vivez en fait.
Du coup, quand on le joue, l'idée, hein, c'est que ça arrive directement aux gens et il y a une fluidité qui fait que c'est comme si je vous parlais maintenant, mieux que ça, parce que là je cherche mes mots, bien évidemment. Enfin, vous m'avez comprise.
Non. Voici, vous allez. Vous allez voir, il y a pire que vous. Voici,
ah oui.
Voici Guillermo.
Ah,
ça va, les amis? Ça va, les amigos?
Ouais,
vous commencez à le savoir. Moi, j'aime bien la science. Peut-être pas autant que les. La LM,
boire. Mais j'aime bien, on critique souvent la science. Je rappelle que sans la science, Einstein il aurait jamais niqué, quoi. Il avait deux passions, Einstein, la science et le banjo. Et je peux dire que quand il jouait au banjo, t'avais pas envie dans la pièce, quoi. Franchement, Einstein, sans le côté, c'est les filles, vous avez entendu parler Newton, c'est un con. Franchement, la gravitation, ça marche pas comme ça. On apprend dans ma chambre. Il parlait comme Patrick Sébastien Einstein. Enfin, faut regarder les archives de l'INA. Mais ce que j'aime le plus dans la science, c'est ce que c'est? Mathieu Vidard. Mathieu Vidard, il a une belle voix, il m'apaise comme ça. Mathieu Vidard, il me rassure, il calme mes angoisses. Si j'ai un cancer un jour, je veux que ce soit Mathieu Vidard qui me l'annonce, vraiment, et qui me dise Ernesto, c'est le pancréas, il te reste 9 jours. Mais t'en fais pas, Ernesto, parce que figure-toi qu'il y a une petite étude cambodgienne qui vient de sortir qui dit justement que chez les souris astigmates à poil kaki du sud Mexique, putain, Mathieu, c'est formidable. Je serais content d'avoir le cancer avec lui. Franchement, je suis fan de Mathieu Vidard. Il a sa chronique le matin à 7h20 et ça m'apaise parce que 9 fois sur 10, je suis encore dans l'angoisse de la chronique de Daniel Morin. Quand il est là, t'allumes la radio un peu trop tôt, t'entends 6h57, c'est à vous, Daniel Morin. Donald Trump, petite souillure amérindienne fan de Dick Rivers. T'es là, mais enfin, t'es dans ton lit, mais enfin, monsieur, pourquoi vous faites ça, etc. C'est le Daniel, il sait que je l'adore, mais quand tu l'entends à 6h37, je pars en tachycardie, quoi. J'ai attention à 36-37. Vraiment, pour peu qu'il y ait quelqu'un d'autre dans mon lit à ce moment-là, franchement, je crois que c'est un cambriolage. Vraiment. Et donc, hier matin, à peine remis de Daniel, 7h20, j'entends Mathieu Vidard qui parle de science, et je suis dans mon lit, je suis bien, je suis en sécurité. Ça. Avec Mathieu, t'es bien, c'est un placenta sonore, quoi, Mathieu. Ouais. Tu vois, je dis pas que je suis pas excité, mais c'est... Et donc, je l'entends dire pourquoi la monogamie est présente chez certaines espèces alors que les mâles sont des usines à spermatozoïdes et qu'ils en possèdent suffisamment pour féconder plusieurs femelles. Et je me dis, Mathieu, tu me cherches. Là, tu me cherches, Mathieu, tu me cherches. Hein, c'est le matin, je suis encore dur de la noche, là. Vraiment. Et tu me parles d'usines à spermatozoïdes et de féconder des femelles. Tu me cherches, Mathieu, tu me cherches. Bon, sauf que Mathieu, il parlait de la monogamie chez les animaux non humains. Pourquoi? Parce que figurez-vous qu'il y a une petite étude créole qui dit que chez les campagnols transformistes à pâtre rétractile du Luxembourg, ça ken comme dans un tourbus. Et non, mais vraiment, il y a des scientifiques texans vraiment qui ont étudié les comportements monogames chez une dizaine d'espèces, notamment des oiseaux, des grenouilles et deux joueurs du PSG. Ils n'ont pas voulu dire lesquels, mais je suis sûr que c'est un Brésilien. Je suis sûr que c'est un des Brésiliens. Ma main a coupé. Et je me rappelle, en fait, il y a toujours un... C'est toujours un peu mystérieux le comportement monogame chez les animaux non humains parce que c'est très exceptionnel en fait. Ça touche 2% des espèces seulement. Dans l'immense majorité des cas, chez les animaux, les mâles ils jouissent puis ils font aller, on s'appelle. Hein. Tu vois vraiment, avec les femelles poisson lune qui fait attends, tu veux pas rester un peu. On pourrait regarder LCI. Enfin, tu vois, non, vraiment, non, c'est gentil. Je sors d'une relation un peu compliquée avec 9000 femelles parce qu'ils parlent un peu comme Patrick Sébastien aussi. En fait, les poissons lune, c'est que les femelles poissons lune elles portent la charge de l'éducation comme la plupart des animaux en fait. C'est pour ça que t'as très peu de poissons lune femelles qui sont cadres. Voilà, donc vous savez qui est monogame? Philippe de Villiers. Mais pas que, vous savez, chez les non-animaux, vous savez qui est monogame chez les animaux? Les canards.
Ah oui.
Et vous allez me dire, je parle tout le temps des canards et qu'il y a un truc chelou qui couve, etc. Et qu'un jour, je vais vous faire, oui, j'ai été élevé par des canards, j'ai compris qu'à 18 ans que c'était pas mes parents biologiques. Enfin, tu vois vraiment, je vais éclater en sanglots. Non, mais chez les canards, ça fait partie des espèces monogames. Les canards, ils entendent Jean-Jacques Goldman chanter la ferme, et tout ça, ils font n'importe quoi. Il est que de la merde celui-là. Je suis content qu'il soit barré en forêt. Et vraiment, vous savez que. Ils ont identifié les scientifiques 24 gènes qui pourraient expliquer les comportements monogames, mais je vais vous laisser Mathieu Vidard les expliquer mieux que moi.
Merci, merci Guillaume. France Inter,
Nagui, la bande originale.
En cléante, on peut essayer, Guillermo. Si Pierre-Yves Bon.
Oui, il a le physique.
Laisse tomber, hein. Ouais, il a le physique. La bande originale d'Aurore et Daniel Auteuil en musique, puisque nous en parlions tout à l'heure des goûts musicaux. Écoutons les goûts musicaux d'Aurore, notamment, vous écoutiez dans les années 90. Freddy Mercury, Montserrat Caballé, c'est allé voir Bohemian Rhapsody.
Oh bah non, j'aurais adoré, moi je...
Allez-y, ah c'est encore au cinéma. C'est encore...
Ah oui, pardon, non, j'étais sur Freddy Mercury, moi j'étais pas sur le film, pardon. Non, j'y suis pas allé voir le film.
Allez-y, vraiment ouais.
Elle m'a obligé à aller, quand on était à Londres, on est partis à Londres tous les deux pour aller voir la maison de Freddy Mercury.
J'ai ramassé de la terre, je suis fan absolue depuis que je suis toute petite de cet homme-là. Et je faisais même, enfin on me voit pas, mais... Je faisais ça pour avoir les mêmes dents.
Les dents en avant qu'il a. Mais en fait, vous apprendrez dans le film qu'il avait plus de dents qu'une dentition normale. Et c'est pour ça que.
140.
Il avait.
Non, ça lui permettait de produire aussi des sons que d'autres ne pouvaient pas produire, justement, par cette morphologie.
Cette musique vous rappelle quoi quand vous l'entendez?
Mon enfance.
Que vous qualifieriez.
Mais encore.
Que vous qualifieriez non, comment
mais... Pardon
Que vous qualifieriez comment?
Ah bah écoutez, très heureuse quand j'étais avec mon père, très heureux, non mais c'est vrai, parce que c'était fabuleux de pouvoir être. Enfin, il avait une joie de vivre et puis une folie qui me. Et puis, c'était un papa-maman un peu, je sais pas comment. Voilà. Donc,
un papa-maman.
Un papa-maman.
Ouais, c'est quoi un papa-maman?
J'ai vu le film, formidable.
C'est quoi un papa-maman?
Un papa très maternel.
Comme Vitalis dans Rémi sans famille, un peu, ce côté-là ou pas?
Oui, mais en même temps, comme il était jeune et plein de fougue, c'est...
Non, il était petit, ça n'a rien à voir.
C'est fait pour ça. La roue tourne.
Mais non, c'est pas ça que je dis.
Nous allons passer parmi vous.
Non, j'ai des souvenirs de lui. Il adorait faire la fête. Enfin, je veux dire, il était.
Bon, c'est un foufou.
Je l'ai enfermé pendant 10 ans.
Et on a choisi l'année 90, Aurore, parce que on a évoqué tout à l'heure que votre père vous emmenait sur scène pour saluer. Et là, il y a une date particulière, c'est les Fourberies de Scapin, à nouveau du Molière. Et c'était dans la cour d'honneur du Palais des Papes, pendant le Festival d'Avignon. J'imagine que ça...
Moi, j'y étais. C'est ma grand-mère qui me gardait pendant qu'il jouait.
Et vous alliez saluer à ses côtés à cette occasion-là?
On l'a pas fait tout le temps. Tu me l'as fait une fois, je crois. Une fois. Mais je connaissais le texte par cœur. Je me souviens, je parlais fort, j'étais fière de connaître la pièce. Bon, bref.
C'est mon père!
On va quand même écouter la musique choisie par Daniel Auteuil à ce moment-là. Vous écoutiez Maurice Jarre. Et voilà.
Oui. Vous savez ce que c'est, ça?
Les trompettes.
Bien sûr, c'est les trompettes. Mais vous savez ce que c'est? C'est l'indicatif du début du spectacle au TNP.
Ouais. Avignon, encore aujourd'hui.
Avignon, oui, le festival. Oui, c'est à l'époque, Maurice Jarre était le compositeur du TNP sous Jean Villard, voilà.
Et à Chaillot aussi. Et vous savez jouer ce morceau à la trompette?
Non, à l'harmonica. Non. Non, pas du tout. Non.
Mais ça, c'est la musique qu'on entend quand Nagui rentre chez lui.
À Chaillot, puisque j'habite Chaillot. Fin des années 90, début des années 2000, justement, allons à Chaillot. Vous écoutiez Aurore Auteuil.
On écoute du chant grégorien.
D'écouter ça?
Oui. Moi,
oh putain.
C'est à l'antenne.
Il nous écoute et on l'embrasse.
Mais moi aussi, je plaisante.
Avec Sylvain pendant qu'elle
j'adore comment il écrit.
Ouais, c'est formidable, bien sûr.
Et puis je suis fan de Fanny Ardant et je prenais mes cours de théâtre et bref.
Non, mais il y a tellement d'humour aussi dans ces textes et d'autodérision. C'est...
Oui, je l'adore.
Vincent Delerme.
Ouais, et dans ces années-là, vous, Aurore, vous vous inscrivez à l'école de Chaillot.
Oui, et après j'ai basculé chez Monsieur Périmoni que j'ai adoré plus que tout.
Et c'est Robert Hossein qui vous, finalement, qui...
Ah, c'est lui
vous...
qui m'a dit d'aller chez lui, effectivement, ouais. Parce que j'allais démarcher. Et je lui disais bonjour, je m'appelle Aurore, je cherche du travail. Et j'avais été le voir à l'époque, il était au Théâtre Marigny. Il m'avait dit, bah écoute, ma petite, va prendre des cours et va chez Monsieur Périmoni. Donc c'est comme ça que j'ai atterri chez Monsieur Périmoni.
Et vous n'aviez pas dit à l'époque à Robert Hossein que votre patronyme c'était Auteuil?
Si, j'ai dû le dire, Aurore Auteuil, parce que sinon il ne m'aurait pas reçu, hein, peut-être.
C'est vrai.
Donc, ouais.
Comment gérer ça? Parce que vous le dites avec beaucoup de franchise, et c'est tout à votre honneur. Comment gérer le fait de ne pas prendre ça comme un passe-droit, de dire je suis la fille d'eux, donc recevez-moi, et de le dire avec beaucoup d'honnêteté en disant bah, c'est quand même mon vrai nom, et je vais en profiter parce que sinon je n'aurais pas eu le rendez-vous?
Oh bah je sais pas, j'ai pas la réponse. Je peux pas, j'ai pas, j'ai reçu une bonne éducation. Hein. Je sais pas quoi vous dire.
Non, mais c'est peut-être que l'honnêteté est la meilleure des réponses. C'est-à-dire d'être franche et de.
C'est ouais, tout, hein.
Ouais, c'est ça.
Et vous, Daniel Auteuil, à quel moment vous avez réalisé qu'elle était faite pour être comédienne? Vous dites dans les interviews, Aurore ne sait rien faire d'autre, c'est évident, c'est ça son chemin.
Quand j'ai vu ce premier spectacle qu'elle a écrit, là j'ai été absolument surpris. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était à la fois un cri, c'était quelque chose où elle se dévoilait, et je l'ai vu faire des choses seule en scène la seule référence modestement c'était que je ne me serais jamais senti capable de faire, quoi.
Ah, carrément.
Ah, d'accord. Ouais, ah, ouais.
Vous écoutiez à ce moment-là, vous, Marianne Faithfull.
I can't give you all my dreams.
C'était une chanson gay.
Bah, c'était dans le film. C'est la BO du film.
Oui, 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 c'est ça, puisque ça avait un rapport effectivement avec
la fille sur le pont.
La fille sur le pont, j'allais dire la fille du plus âgé, avec toutes ces filles. Ouais. On ne sait plus. C'était la fille sur le pont, effectivement. Et c'est je jetais des couteaux à Vanessa Paradis sur cette musique-là. Ouais.
Un film de Patrice Lecomte, vous recevez le...
En noir et blanc.
Ouais, le César du meilleur acteur pour votre interprétation dans ce film. Et vous racontez même aussi cette sincérité que initialement, c'était Marielle qui devait incarner ce personnage.
Mais vous savez, oui, il y a pas de problème. Les rôles finissent toujours par arriver à ceux pour qui ils sont destinés. Voilà, ce métier est fait de d'acceptation, de refus, et les rôles se baladent. Oui, c'était Marielle qui a refusé effectivement ce rôle en disant, je ne sais plus pourquoi, mais effectivement elle a refusé.
Je crois que c'était s'imaginer avec Vanessa Paradis dans les bras en disant c'est pas crédible, ça peut pas fonctionner.
Alors que moi, je me disais tiens.
C'est pas con.
En plus, il y a mon alliance qui me gratte. En 2011, Aurore Auteuil, vous écoutiez.
Ouais, lui, il a donné une bonne gifle. Hein.
Ah oui.
Quand il est arrivé, c'est...
Il nous manque, hein. Moi, je le dis. Je l'adore.
Oui, c'est vrai que c'est mis en retrait.
Ah, extraordinaire.
Il y en a un autre aujourd'hui que j'aime beaucoup. Comment il s'appelle? Dis-moi.
Attends, parce que je veux pas dire de bêtises.
Ah putain. Non,
je ne sais pas. Donnez-nous un indice.
Vivant.
Vivant. Eddie De Pretto.
Voilà.
J'adore ce type. Il a la fois.
Raison.
Ouais. Il a à la fois la
voix. On l'a reçu ici.
Ah ouais. Et il est extraordinaire.
Il a une plume formidable.
Un univers et une voix. Vous avez remarqué qu'il a un peu la voix de Nougaro? Quelque chose de la voix de Nougaro.
Pas fait gaffe, je ferai attention la prochaine fois.
La prochaine fois, faites attention.
Okay. On est
en 2004 et on vous retrouve tous les deux au cinéma dans 36 Quai des Orfèvres d'Olivier Marchal. 36. Je vais pas vous louper après.
Vous pouvez jouer avec nous. Vous pouvez jouer avec nous.
Je
vous engage en intro. Vous avez la diction de mes acteurs.
Et vous allez voir qu'en plus,
de tous les acteurs, vous allez voir.
En plus de cette mauvaise diction, je me suis plantée d'année parce qu'on est en 2011 et donc c'est pas du tout Olivier Marchal en 2011. En 2011, Aurore, vous êtes nommée aux Molières. Voilà, ça c'est bien plus intéressant.
Justement, le vieux juif blonde.
D'Amanda Sterz, qui évoquait hier votre collaboration à ce micro. Quel souvenir vous gardez de ce travail sur scène?
Écoutez, je rêvais de jouer ce texte d'Amanda et je me suis battue pendant 4 ans pour pouvoir le jouer. Et
c'est quoi se battre pendant 4 ans, ça veut dire quoi?
C'est insister sans être trop lourde, hein, mais montrer qu'on est très motivé, que c'était le personnage me parlait beaucoup, moi.
C'est les blondes.
Voilà.
Bon, Amanda Sterz nous disait qu'elle gardait un mauvais souvenir de votre collaboration.
Oh merde.
Revenons aux maladies imaginaires. Ouais. Allez, maladie imaginaire qui se jouera donc au Théâtre de Paris à partir du 25 janvier avec Aurore Auteuil, Daniel Auteuil, Alain Douté également, Victoire Bellesi dans le rôle d'Angélique, j'imagine.
Absolument.
Pierre-Yves Bon dans celui de Créante, Natalia Doncheva, Jean-Marie Gallet, Gaël Conta, Loïc Legendre, Cédric Zimmerlin et Laurent Bozzi, puisqu'on parle de malades imaginaires et de médecine. Michel Simès, bonjour Michel.
Bonjour Monsieur Nagui.
Merci de revenir à la maison.
Bonjour Laïa.
Nous avons tout à l'heure, Daniel a parlé de l'hypochondrie. Est-ce que d'abord c'est une maladie qui a toujours existé, ceux qui se croient malades et qui ne le sont pas? Et Tom a blagué sur Doctissimo, c'est-à-dire ceux qui sont persuadés d'avoir tous les maux et vont sur Internet pour voir si les symptômes qu'ils ressentent sont des maladies.
C'est une maladie qui a toujours existé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le flot d'informations santé qu'on peut avoir, soit par Internet, soit sur les magazines, les radios, les télés, etc., évidemment, les gens font plus attention à eux et peuvent analyser à partir d'un symptôme. Alors qu'avant, à l'époque probablement de Molière aussi, mais quand on avait un symptôme, on allait voir un médecin, on n'y connaissait pas grand-chose, et on essayait d'avoir un diagnostic. Aujourd'hui, souvent, les patients arrivent avec, non pas le symptôme, mais le diagnostic, ce qui a le don d'énerver tous les médecins. Je peux vous dire, quand vous arrivez
en disant « je sais ce que j'ai », ça énerve le médecin.
C'est-à-dire que vous avez mal à la gorge, vous allez taper sur Internet « mal à la gorge », on va vous donner tout un tas de choses, probablement beaucoup plus objectives que celles que tu donnais tout à l'heure avec les ligaments croisés, mais vous allez arriver avec un panel de maladies qui peuvent correspondre aux symptômes que vous avez. Donc, et vous arrivez chez le médecin.
Est-ce qu'ils vont chez le médecin, ces personnes-là, ou est-ce qu'ils font de l'automédication en disant, je vais regarder sur Internet en fonction des symptômes que j'ai vu sur Internet que ça se soignait comme ci, comme ça, et je...
Alors, il y a deux types d'hypochondriaques. Ouais. Il y a l'hypochondriaque qui fait la politique de l'autruche, qui va avoir un symptôme qui va l'inquiéter, qui va regarder sur Internet qui va en général aller vers le plus grave, et qui, lui, va se dire, c'est pas la peine que j'y aille, je suis foutu. Voilà, donc il va pas chez le médecin. Et puis il y a l'hypochondriaque qui est inquiet, mais qui sait qu'il est hypochondriaque et qui sait que s'il va en consultation, il va être rassuré par le médecin. Moi, j'ai des patients hypochondriaques qui viennent me voir régulièrement. Ils savent qu'ils sont hypochondriaques parce qu'à un moment, au bout de la 15e consultation, il faut en parler avec eux. Vous leur dites, voilà, vous êtes inquiet à propos d'une éventuelle maladie. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a quand même un peu d'hypochondrie derrière? Les gens disent oui. Pour peu qu'ils soient un peu cortiqués, ils disent oui, je sais, mais en même temps, le fait de venir me rassure. Donc je leur dis, vous m'appelez à n'importe quel moment.
L'hypochondriaque peut être malade aussi.
Ah bah, le plus beau truc, c'est l'hypochondriaque qui, sur sa tombe, dit « je vous l'avais bien dit quand même ».
Et il paye à chaque fois la consultation, s'il vient, je sais pas, parce que...
T'as pas d'abonnement.
C'est pas un forfait. Hein,
non, je dis pas que c'est un forfait, je dis simplement que quand on sait que ce malade est particulièrement inquiet, s'il faut le rassurer en 5 minutes, à chaque fois, il faut... Parce que ça déclenche quand même des frais pour la sécurité sociale.
Oui, ça en déclenche. Alors après, c'est le nomadisme médical. Le problème des hypochondriaques en France, c'est qu'il y a des hypochondriaques qui vont aller voir un spécialiste. Oui. Et puis comme pour peu que le spécialiste soit pas assez empathique ou pas assez pédagogue pour leur expliquer les choses, et ben ils vont aller en voir un deuxième et ils vont multiplier les examens complémentaires, des IRM, les scanners, etc. Que ça coûte un pognon fou à la sécurité sociale. C'est pour ça que le dossier médical personnalisé qu'on va enfin mettre en place avec la carte vitale ou d'autres,
il y aura un suivi.
On va avoir un suivi, on va dire monsieur, vous avez déjà eu deux IRM pour la même chose, on va pas vous en faire un troisième. Surtout qu'il y a des effets pas sur l'IRM, mais quand vous faites des rayons X, bien sûr, il y a des effets secondaires.
Mais pour reprendre la phrase, c'était dans Knock, je crois. Il n'y a pas de bien portant, il n'y a que des malades qui s'ignorent. L'hypochondrie, c'est un peu ça aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui anticipe une maladie qu'il pourrait avoir et qui veut se maintenir en bonne santé en anticipant justement cette maladie?
Il y a tous les profils. Il y a le malade qui se dit il vaut mieux que j'anticipe, que je fasse de la prévention, ou que je me dise bon, il y a un petit symptôme, pour peu que ce soit grave, il vaut mieux que je le prenne tout de suite. Donc je vais immédiatement consulter. Et puis il y a l'hypochondriaque qui est pas malade du tout, qui a rien, qui a aucun symptôme, mais qui s'auto-centre. C'est-à-dire que les anxiétés, les crises d'angoisse que peuvent avoir certains, qui peuvent se traduire par une irritabilité, des troubles du sommeil ou n'importe quoi, vont se traduire chez les hypochondriaques. Ils vont se centrer sur eux-mêmes et ils vont ressentir. Si Nagui, tu regardes du matin au soir, t'essayes de percevoir un symptôme pourrait toucher ton abdomen. Par exemple, tu as du gargarisme, vous parlez de flatulence tout à l'heure, un gargarisme, un petit tressautement de la paupière, etc. Tu vas dire, c'est rien, ça va passer. L'hypochondriaque, il va se centrer dessus toute la journée, jusqu'au moment où il va être persuadé d'avoir un cancer de l'œil.
J'ai une question.
Oui, Aurore, j'ai peut-être la réponse.
Sortez votre carte vitale.
Non, pas du tout. Est-ce que c'est pas une maladie aussi qui peut être pour les gens qui sont trop tournés vers eux-mêmes?
Si
on est moins tourné vers soi et qu'on est tourné vers les autres, on est moins malade.
Ça touche énormément de milieux stressés. Il y a beaucoup d'hypochondriaques dans le milieu artistique. Ouais. Vous devez avoir, Daniel, pas mal de gens, je ne sais pas si vous êtes hypochondriaque, mais beaucoup de gens qui sont stressés parce que c'est un métier difficile. Beaucoup dans le journalisme.
Je crois que Fabrice Lucchini fait partie
de la
confrérie des hypochondriaques.
Oui, Lucchini, Drucker, etc. Ouais. Mais tous les métiers dans lesquels il y a un stress et qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'être malade aussi, fait que le moindre symptôme prend des proportions considérables.
C'est un peu lié à l'âge.
On est auto-centré. Ouais. Bien évidemment, l'ego, je pense. Je ne suis pas psychiatre, mais je pense que les gens qui sont très égocentriques, il y a plus d'hypochondriaque chez eux que chez les autres.
Ouais. Alors que le cas de notre Argan, c'est-à-dire qu'il aime sa maladie, et quand il est trop, justement, quand il est trop préoccupé par d'autres soucis, il souffre de ne pas avoir le loisir de songer à sa maladie. C'est-à-dire que sa maladie lui permet aussi, mais c'est ce que vous disiez un peu, si c'est centré sur, sa fausse maladie lui permet de tyranniser les autres. Ça le rend.
Oui, ça permet d'attirer l'intérêt des autres aussi. Quand personne ne s'occupe de vous et que vous plaignez souvent d'être malade, vous avez la pitié des autres jusqu'au moment où ils en ont marre et qu'ils vous envoient balader.
Et on disait que c'était la peur de mourir. C'est-à-dire de se dire, j'ai peur d'avoir une maladie, j'ai peur de mourir. Est-ce que l'hypochondrie ne permet pas de finalement garder une parfaite santé? en réagissant dès qu'il y a un symptôme et en disant immédiatement...
Je dirais c'est un peu comme la parano, c'est-à-dire un paranoïaque qui peut s'en sortir mieux qu'un autre dans certaines
situations. Sauf qu'un paranoïaque a toujours des ennemis.
Oui, mais justement, comme il a des ennemis, il est victime. Ouais,
c'est vrai que la logique de se dire, je suis hypochondriaque, donc le moindre symptôme, je ne laisse pas passer, je vais consulter,
j'anticipe,
on va me faire un diagnostic plus tôt que si je laisse traîner, bien évidemment. Sauf que l'hypochondrie, la vraie hypochondrie, c'est un tel stress pour le patient, il est tellement mal... Et vous savez que le stress engendre lui-même des pathologies et des maladies.
Ça
n'a pas été scientifiquement calculé, mais on sait que le stress, par exemple, pour le développement d'un cancer, c'est pas bon. On sait que le stress, ça entraîne des problèmes gastriques, on sait que ça entraîne des dépressions, des troubles du sommeil, qui eux-mêmes vont entraîner d'autres complications. Donc finalement, l'hypochondrie, ça peut être considéré comme une maladie qui va en générer d'autres.
Et les hommes et les femmes sont égaux devant l'hypochondrie ?
Oui, alors on dit que les hommes sont souvent plus hypochondriaques, mais ils en parlent moins. Ils gardent pour eux et ils vont moins consulter.
Et comment on explique que les femmes ont plus on manque plus de magnésium, nous que...
Ah, ça, c'est autre chose. Alors,
c'est la consultation. Alors, ça
peut... On en profite. Et
le pied grec, Michel, on en parle.
Il y a quelqu'un qui a des hémorroïdes ou pas? Non,
Daniel,
merci, c'est fini.
On évacue tout de suite. Il n'y a pas, Daniel, non, y a pas les femmes au moins. Alors, c'est surtout sur le faire, parce que comme vous avez, mesdames, des cycles que nous n'avons pas et que vous perdez un peu plus de sang que nous, par définition, vous pouvez avoir une perte d'un certain nombre de minéraux. Mais le magnésium, vous n'en manquez pas, je crois, plus que nous.
Michel Simès, vous le retrouvez sur RTL le matin, dans Ça va beaucoup mieux, à 8h15, c'est ça, tous les jours. Également le dimanche à 9h15. Et le dernier livre sorti, justement, il y en avait un qui s'appelait « Chers hypochondriaques » aux éditions Stock. L'année dernière. Et puis on se retrouvera tous les deux mardi prochain.
On va jouer au docteur.
On va jouer au docteur. Ouais. Et
enfin, toi surtout, parce que moi je le suis. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais jouer à l'animateur. Moi.
Très bien, très bien. Et ça sera donc mardi prochain à 21h sur France 2 avec Thierry Lhermitte, Michel Bernier, enfin une joyeuse bande qui va venir jouer avec nous pour savoir si en effet le gingembre est aphrodisiaque, si l'ananas fait maigrir, si le pamplemousse est bon pour le foie.
Si les femmes manquent de magnésium.
Voilà, tout ce que l'on on pressent. Merci. Merci Michel, merci
à vous
d'être venu. Tanguy Pastureau, bonjour. Les chiffres de natalité française sont tombés.
Oui,
hier.
Ils sont mauvais. Quatrième année consécutive qu'on fait moins de bébés chez Pampers. Le PDG a tenté hier de mettre fin à ses jours en avalant 12 couches baby dry. En cause YouPorn, bien sûr, qui fait que 80% des gens font l'amour à leur ordi. Et ça sert à rien, 9 mois après, on n'a pas une tablette.
C'est la bande originale, merci de nous rejoindre avec Leïla Gadamoudi, Daniel Morin,
bonjour Guillermo.
Tom Villa,
bonjour.
Tanguy Pastureau, Guillermo Guiz et nos invités Aurore Auteuil et Daniel Auteuil. Qui nous donne envie, en tout cas, de venir vous voir au théâtre. D'abord, c'est redécouvrir Le Malade Imaginaire de Molière, sa dernière pièce. Et d'ailleurs, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, qui peut être une espèce de, non pas de résumé, mais en tout cas, toutes les influences de toutes les autres pièces, tout ce qui a fait le succès des Fourberies de Scapin, de Tartuffe, du Bourgeois Gentilhomme, se retrouve, reconnaît.
Dans c'est la pièce d'un homme qui est arrivé au bout de son savoir, de sa science, qui maîtrise parfaitement son art et qui d'un trait, d'un geste simple réunit dans une seule pièce toutes les plus belles pièces qu'il a pu écrire et effectivement c'est à la fois tragique, drôle, cruel, philosophique, il y a absolument tout dans cette pièce et
il y a évidemment la maladie, il y a évidemment c'est plus la médecine d'ailleurs qui est visée
que
les médecins et puis il y a les histoires d'amour, amour impossible, mariage forcé. Et le clivage dans la société aussi. Toinette est la servante, mais c'est elle qui est la plus intelligente finalement de toute la bande. C'est elle qui est la plus humaine. C'est elle qui va manipuler et diriger les autres. Et puis les grands, les riches, les nantis, voilà, c'est ça. Eux, par contre, se font balader, se font abuser.
C'est.
Elle a l'intelligence du peuple.
C'est quelques années avant. C'est Figaro, vous voyez, c'est-à-dire ces grands personnages qui ont sur l'ADN. naissance, qui n'ont pas eu la naissance ni l'argent, mais qui ont l'intelligence. Et c'est à partir de là que ces gens-là qui feront la société plus tard et qui seront là, voilà. C'est le bon, en vérité, c'est le bon sens. Le bon sens qui est de toute éternité, voilà, qui est là.
Un sens de la justice ou de la justesse. Enfin, il y a quelque chose qui est important pour elle. Il faut pas, elle n'aime pas le mensonge, elle n'aime pas, les manipulations et le sentiment d'injustice quand l'amour est forcé.
Oui, c'est dans sa nature. Elle est bienveillante, elle a de la distance. En même temps, elle est obligée de travailler pour gagner sa croûte, donc il faut que tout se passe bien aussi pour elle avec sa maîtresse et puis qui est donc la femme d'Argan. Elle est un peu plus âgée que.
Oui, sauf qu'elle lui dit ses quatre vérités aussi.
Ah, mais c'est pour ça qu'elle.
En se servant d'images.
Mais comme elle l'aime, elle lui dit la vérité, ouais. Ouais.
Et comme vous parlez d'une pièce qui mélange un peu tous les arts, il y a aussi de la danse et de la musique initialement dans le imaginaire.
Alors nous allons en parler parce que je pense que sur la mise en scène justement et sur les intermèdes, puisqu'il y en a trois en tout, c'est pas mémoire, Daniel Auteuil, on va en parler dans quelques instants. Ça, parce que là il est l'heure de Tanguy Passion. Tanguy, la France n'est plus ce qu'elle était.
Non, Nagui, c'était mieux avant. On va pas se mentir, on buvait du pinard à midi et de la suze de 8h à 23h. Il y avait pas de vegan, on matait la pub Madrange avec Véronique Jeunesse en train de bouffer les yeux mi-clos comme si elle tournait dans un porno italien. Le porc, c'était le Viagra de l'époque. Les types mangeaient 14 côtelettes avant le coït. On roulait sans ceinture à 150 sur des nationales pourries. Et donc on mourait, mais heureux parce que libre. Sur les paquets de clopes, on n'avait pas comme maintenant des photos des anciennes dents de Didier Deschamps, celle qu'il a mise sur le bon coin. On fumait, pensait pas au cancer. Et même si on décédait, on s'en foutait parce qu'il n'y avait pas le streaming. Donc on n'était pas comme des cons en train d'essayer de pas rater la prochaine saison de Game of Thrones. Tout ça pour voir des loups et des culs. Autant attendre le biopic sur Johnny. Non mais la vie était belle. Au cinéma, on allait voir Pierre Richard tomber dans des trous en s'enfilant du popcorn. Hein, c'est parce que les calories, on s'en tapait. Et sur France Inter, il y avait Pierre Desproges. C'était autre chose que mes petites chroniques. C'est parce que le niveau intellectuel a baissé que le public me définit comme un génie de l'humour. Mais enfin, il y a 30 ans, je faisais même pas la billetterie du spectacle de Roland McDan. Et puis, on faisait l'amour. Il n'y avait pas Internet, pas de smartphone. On n'avait que ça pour passer le temps. En 2019, on a tous la tête dans l'écran. Un pédophile qui tend un bonbon à un gosse de 5 ans. Le gamin lui dit, mais Bolos, remballe-moi ça. Tu crois que j'ai que ça à faire? Là, je suis sur le niveau 4 de l'âne trop sur la plateforme Gulli. En plus, ma mère m'a dit de n'accepter que des bonbons bio. Oui, avant, on forniquait tel de vieilles loutres. Et donc, on sortait des enfants par l'eau de douce. Quand en classe de cheval, un môme se faisait piétiner par un poney, ça avait moins d'importance que là où on rame pour en avoir un seul. Les études le disent, la qualité du sperme est en baisse constante. Il n'y a plus rien dedans, c'est de l'eau. Hein, je pense qu'à terme, Marc Dorcel va s'associer à Volvic pour embouteiller tout son stock, parce que c'est gâché. Et les femmes font leurs enfants de plus en plus tard. 30 ans et demi en moyenne cette année. Tout ça pour travailler, ce qui n'a qu'un intérêt relatif. Et ça fatigue. Regardez Benoît Hamon, il ne travaille pas. Bah à 51 ans, il en fait 23. Quand on lui demande son secret de beauté, il répond « Tu crées un parti politique, tu mets personne dedans, t'attends. » Les chiffres de la natalité sont tombés hier pour la 4e année consécutive. Ils baissent. Alors certes, c'est bon pour la planète. Si à terme, on n'est plus que 9 en France, on n'aura pas à se peigner un Toyota hybride. Hein, parce que là, il y a des gens qui utilisent leur voiture pour n'importe quoi. Certains vont à des concerts de Kinvey. Mais cette baisse, en fait, est terrible. Parce que pendant qu'on est là à se regarder dans le blanc des yeux, les autres pays se reproduisent. Or, ailleurs qu'en France, c'est blindé d'étrangers. Alors certes, ils ont des points communs avec nous. Eux non plus ne savent pas qui est Agnès Buzyn. Mais enfin, ça fait peur.
Et combien d'enfants, alors, sont nés en 2018 ?
Eh bien, 785 000, hein, d'après l'INSEE. Ça paraît énorme comme ça, hein, d'autant que ce sont des gosses qui potentiellement peuvent prendre le train avec leur daron et beugler sur tout un trajet Paris-Marseille. Vous voulez taper une seule fois avec vous dans un club 4, arriver à la gare, vous allez dans le premier resto faire une vasectomie. Ou s'ils n'ont plus disponibilité, à Jardiland pour acheter un sécateur. Mais en fait, c'est moins 12 000 bébés par rapport à l'an dernier, où il y en avait déjà moins que l'année d'avant. À terme, il va y avoir plus d'avenir à bosser dans un EHPAD que dans une école. Pour un petit Théo qui se fait pipi dessus, on a 14 René qui font la même chose. La France est un pays vieillissant. Ce qui est formidable pour nous, parce que ces gens écoutent France Inter. En tant qu'humoriste, si en plus vous décrochez une chronique d'actu à la fin du 19-20 Catherine Matoche, derrière vous faites des zéniths remplis de gonzes qui ont encore un mail se terminant par @wanadoo.fr, tellement ils sont largués. Mais le souci, c'est qu'il nous faut des jeunes pour financer les retraites des vieux. Si on fait pas tous des gosses très vite. Il va faire comment, Daniel Morin, dans 2 ans? Nous ne sommes plus qu'à 1,87 enfants par femme. En 2017, on faisait 1,90 enfants. Je suis désolé, mais ça faisait des gamins plus complets. Hein, 1,87, il faut pas s'étonner s'il manque une case au petit deuxième. En 2014, on était sur 2 enfants par femme. Ça baisse. Et comme l'espérance de vie augmente, en face, on meurt plus. Hein. Eh ben, elle est de 85 ans pour les femmes, 85 ans à gagner moins et à se taper les divagations de Yann Moix, c'est 85 de trop, et de 79 ans pour les hommes. On vit 6 ans de moins. C'est pour ça qu'on est pressés, nous les mecs. C'est pas par plaisir qu'on roule en SUV sur les pistes cyclables hein, et qu'on jouit en 2 minutes. Un mec comme Guillermo Guise, s'il était une femme, vous croyez qu'il aurait ce débit de parole? Ben non, il parlerait comme ça, tout doucement, en faisant sonner chaque mot. Fanny Ardant fait ça uniquement parce qu'elle va vivre 85 ans et même plus, hein, parce que Jeanne Calment, elle a tenu 122 ans. Enfin, elle 60 plus sa mère 40 plus sa mamie 22. À la fin, ça faisait 122. Bref, il n'est pas trop tard. France, réveille-toi. J'en appelle à Francky Vincent. Feignasse, 20 ans que t'as pas eu un hit. On fait comment, nous, pour faire des bébés? On fait l'amour sur du Eddy de Préto en pensant à la Pologne? J'en appelle à toi, auditeur d'Inter. Éteins ta radio. 16 mois qu'on se tape des sondages énormes, c'est lassant, on n'a plus besoin de toi. Va-t'en, fais l'amour. Dans 9 mois, ça repart et les Chinois l'auront dans l'os.
Merci Dany Passio. La bande originale, lundi, sur France Inter. Alors maintenant que Tanguy Pastureau nous propose de faire l'amour sur Eddy de Préto et que Daniel Auteuil aime Eddy de Préto, peut-on fermer les yeux et imaginer Daniel Auteuil en train de...
Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance.
C'est la fête de trop. C'est vrai que c'est vachement bien. C'est vachement bien, Eddy de Préto. Je suis totalement d'accord avec vous. Donc revenons à ce que tu voulais dire, cher prof. Parce qu'elle était professeure de français, Leïla, et oui, donc elle a enseigné le malade imaginaire.
Nul n'est parfait, en tout cas. Vous parliez de la pièce qui était bien, bien mêlée. Il y a ces intermèdes musicaux aussi. Il y a ce prologue qui démarre le malade imaginaire. Comment est-ce que vous allez justement restituer ça?
Alors, vous avez vu dans le texte, il y a deux prologues. Oui. Il y a la proposition d'un prologue absolument gigantesque, avec des dizaines de danseurs, de la musique. Et Molière, qui est savait comment les choses se passaient, on a écrit un autre où c'est juste une petite fille qui chante. Et bien voilà.
La bergère.
Il y aura une petite bergère qui vient faire ce prologue. Et ensuite,
je crois que je l'ai. C'est cette musique-là?
Non. Non, c'est une musique qui a été composée spécialement.
Parce que il y a eu un clash déjà à l'époque entre Lully et lui.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Lully, qui était un compositeur très très célèbre mais très ambitieux, veut absolument que ce soit lui qui gouverne toutes les histoires de théâtre, et donc c'est lui qui avait sur l'époque, c'est lui qui avait la mainmise,
voire la propriété des œuvres dans lesquelles il y aurait des musiciens.
Voilà. Et il pouvait dire que non, il n'y aura pas de musique sur telle pièce, et donc il se fâche, et c'est là que Lully, il faut rappeler, il a écrit au Clair de la Lune. Je dis ça, c'est tout ce que je sais. On connaît que Clair de la Lune, en fait, de Lully.
Au Clair de la Lune, qui est une chanson un peu paillarde.
Bon ami Pierrot.
Oui.
Prête-moi ta plume.
Bah oui.
Ah oui, pour écrire un mot. Bah, ah oui,
non,
oui.
Pour allumer ma flamme.
Oui, 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 c'est pas paillard, c'est la poésie.
C'est la lecture.
Je vois le mal partout.
C'est coquin. C'est coquin, on va dire.
Oui, c'est la poésie. Et donc.
Ma chandelle est morte.
C'est pas la digue du cul non plus. Tu veux pas rappeler Simon, c'est pas.
Ça va aller. Enfin bref, on va la faire.
Mais vous ne pourrez plus jamais entendre au Clair de la Lune comme.
Tu nous as perverti au Clair de la Lune.
C'est un peu comme.
Enfin bref, donc effectivement, il engage un jeune compositeur qui est charpentier. Et que madame la professeure va nous expliquer, c'est lui qui a fait donc la musique du malade imaginaire.
Et ça, c'est pour ça, c'est le prologue, vous venez de l'expliquer, et pour les intermèdes. Pour le coup, là, il n'y a pas différentes versions écrites par Molière, il y a des versions un peu longues d'ailleurs.
Il y a trois intermèdes, oui.
Là, il n'y en a pas, tout s'enchaîne. Si vous voulez, le premier acte se passe à la tombée du soir et va jusqu'à la nuit. Ensuite, le deuxième acte et le troisième, c'est dans la même journée. Donc, si vous voulez, tout s'enchaîne comme on va passer du premier au deuxième comme un fondu enchaîné de cinéma. Ouais. Voilà.
Et on a quand même la musique aussi à la fin pour la cérémonie.
On a surtout le moment de chant où le jeune homme ou le jeune premier se fait passer pour un
Pierre-Yves Bon
qui chante.
Et donc il se fait passer donc pour un prof de chant
et il improvise,
il y a tout un passage musical effectivement où à la guitare sur un air de
Ne dis pas, non.
Donc, je ne le dis pas.
Mais pourquoi?
Parce que c'est la surprise.
Sur l'air de Bowie. Il chante du Molière. Et les paroles de Molière, Molière parolier, ça va très bien avec la musique de Bowie.
David Bowie?
Ouais, ouais.
Et comment avez-vous eu l'idée?
Comme ça, vous savez.
Cher metteur en scène, faut nous dire l'inspiration.
L'idée, c'est
aviez-vous appris ce morceau de Bowie à la guitare?
Non. En vérité, c'est Pierre-Yves Bon,
l'acteur qui
m'a proposé ça.
Il t'a chanté la chanson de Bowie. C'est toi qui as eu l'idée après de mettre les mots de Molière dessus.
Ah oui, c'est vrai, c'est ça. je sais plus ce que je fais.
La mémoire, c'est moche. C'est moche. Moi, j'ai connu Daniel Auteuil. Il était.
C'est quand il était comédien.
Et à la fin, la cérémonie effectivement d'intronisation, c'est une surprise que je laisse découvrir aux spectateurs.
Très bien, tout ça donc parce que la mise en scène, se retrouve Daniel Auteuil. Vous aimez ça, vous avez pris plaisir à diriger des comédiens, que ce soit au cinéma ou au théâtre.
Oui, c'est
en jouant au théâtre. Est-ce que vous pensez éventuellement un jour à faire de la mise en scène sans jouer la pièce?
Alors je ne sais pas. C'est une question que je ne me suis pas posée parce que j'aime tellement jouer aussi que. Mais pourquoi ce désir de mise en scène est venu? Il est venu par l'envie de, au fond, de transmettre des choses que j'avais apprises et de les donner. Je pense que je serais un mauvais professeur d'art dramatique parce que être pédagogue, c'est tout un.
Ouais, je suis pas d'accord parce que de ce que vous disiez, Aurore, tout à l'heure sur sa manière de vous diriger, visiblement, il vous explique, vous dites, il est à propos de votre personnage de Toinette, la servante, elle est le peuple, elle est la justesse du peuple, elle a la vérité.
L'intelligence du peuple.
Donc, il vous donne des indications pour resituer un personnage, mais pas en disant plus vite, plus fort.
Il fait tout, hein.
Ah ouais.
Et c'est dans le détail près. C'est-à-dire que ce soit.
Il est méticuleux.
Ah, fond les ballons. Et c'est ça qui est. Non, mais.
Et moderne.
Non, mais c'est ça qui est génial. Alors, on travaille très, très dur et on a beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Il a une énorme exigence.
Mais pardon, à quel moment on peut se dire, OK, c'est bon, on arrête?
Parce que, de toute façon, on n'est jamais.
Dans ces cas-là, on n'est jamais à la perfection.
Non, mais bon, ce qui est.
Vas-y, papa, pas de ça entre nous.
C'est toi.
Quoi, vous voulez dire que Daniel Auteuil est votre père?
Je parlais de l'exigence, je crois.
Et moi, je disais qu'il n'y a pas un moment où on s'arrête en disant c'est bon, c'est fait.
Ah non, jamais. Enfin, moi, je pense qu'on est sans. Enfin, après, pour moi, on est sans arrêt à trouver des choses et à avancer.
Et à remettre en cause les acquis.
Pas remettre en cause, mais on trouve sa liberté dans les indications qu'il nous a données. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est à nous de créer, d'avancer, de proposer des choses. Mais ce qui est fabuleux, ce qui sécurise, c'est que dans les indications qu'il nous a données dans sa mise en scène, on peut s'épanouir à l'intérieur. Voilà.
D'accord. Il vous laisse quand même un libre arbitre et un champ pour agir et pas forcément suivre des.
Tant que c'est juste, oui. Tant que.
Oui, évidemment. Oui, tant que c'est juste. Voilà. D'accord. Oui, tant que c'est dans le rôle, dans le personnage.
Voilà.
Très bien. Voici Daniel Morin, messieurs-dames. L'humoriste imaginaire.
C'est peut-être le plus grand magicien de tous les temps, Nagui. Oui, qui ça? Eh bien. Alexandre Benalla. Selon le Canard enchaîné, l'ancien chauffeur, garde du corps, diplomate, bagagiste de l'Élysée aurait toujours en sa possession un téléphone crypté, téléphone qu'on donne d'habitude au personnel des services secrets, ça plus un quatrième passeport. Et oui les amis, on n'est jamais au bout de ses surprises avec Alexandre Benalla. Alexandre Benalla, c'est le monsieur plus de la République. Alexandre a toujours sur lui ce que vous cherchez et même ce que vous ne cherchez pas. Tu veux un peu d'argent? Demande-lui, il en a. Tu veux des armes? Demande-lui, il en a. Tu veux un brassard de police? Demande-lui, il en a. Tu veux une matraque? Demande-lui, il en a. Tu veux un préservatif taille Nagui? Demande-lui, il en a. Tu veux un sandwich mixte jambon fromage supplément cornichon, le tout dans du pain de mie garanti sans croûte et sans gluten? Demande-lui, il en a. Tu veux un livre sur l'honnêteté, la transparence et la noyauté? Non, demande pas ça, il en a pas. Faut pas déconner non plus. Mais à part ça, il a tout, Alexandre. À se demander combien il a de poches, le bougre. En tout cas, si tu as besoin d'un nouvel ami, le meilleur choix, c'est Benalla. Alors, qu'est-ce qu'on dit?
Merci, monsieur Pousse.
Tout ça mériterait presque qu'on le consacre à monsieur Benalla et à ses trésors insoupçonnés, une grande émission d'investigation.
Oh là.
Patrice Drouin, Affaires sensibles. Oh non. Sur France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, nous plongeons au cœur de l'intime d'un personnage étonnant, l'intrigant monsieur Benalla. Nous sommes dans l'appartement d'Alexandre Benalla, un appartement de plus de 300 mètres carrés dans un quartier huppé de la capitale, un peu étrange pour un simple chargé de mission, mais bon, on n'est pas là pour parler immobilier. Dans cet appartement, tout est bien rangé, on a l'impression que l'occupant des lieux n'a rien caché, et pourtant... Alors que des enquêteurs vont faire une pause et s'assied sur le canapé d'Alexandre Benalla, une raideur inattendue lui cogne le cul. Il fait un bond, soulève le coussin, et là, quelle n'est pas sa surprise, il découvre un lance-roquette. Un lance-roquette, une arme de guerre qui fait très mal. Dans la cuisine de Monsieur Benalla, un inspecteur mal réveillé décide de se faire un café. Il prend un paquet de Nescafé soluble, plonge la cuillère, et là, il sent comme une résistance. Il met les doigts, et là, un paquet de poudre blanche et de la coke. Il y en a facilement pour 100 grammes, ce qui représente environ 8000 euros, selon Augustin Trapenard, notre spécialiste café. Au bout de 3 heures d'investigation et de fouilles, les policiers ont saisi des armes, de la drogue, des passeports, un crâne de chien, un DVD best-of Jackie et Michel, un buste d'Adolf Hitler, une Molaire dédicacée ayant appartenu à Michel Houellebecq, une Peugeot 205 Junior, un casque à pointe, une notice Ikea. Et le plus inquiétant, une photo étrange. Une photo inquiétante sur laquelle on voit Alexandre Benalla nu dans un jacuzzi, en compagnie d'Émile Louis, mais aussi de Vladimir Poutine, Kim Jong-un, Bachar al-Assad, Michel Thor, Nicolas Ceausescu et Nagui. Ah bah Nagui, oui, le célèbre animateur dont le talent est inversement proportionnel à la taille, c'est-à-dire immense. La question qui taraude les enquêteurs est « Mais qu'est-ce que cette figure iconique du showbiz fait au milieu de tous ces salopards immondes? Pourquoi la présence de Michel Thor ?» Beaucoup de questions, peu de réponses. Décidément, l'affaire Benalla est vraiment une affaire sensible.
Merci, à demain. Merci, Daniel Morin.
Avec Nagui.
Pour la première fois réunis sur scène, Aurore Auteuil et Daniel Auteuil, le malade imaginaire, ça sera au Théâtre de Paris, très beau théâtre, dirigé par Stéphane Hillel, que je salue au passage, parce que nous sommes allés voir sa mise en scène de Danny Moon et Valérie Bonneton, que nous recevrons demain.
8 euros de l'heure. Vous... au théâtre.
Oui, c'est pas ton tarif, hein, c'est le titre de la pièce.
C'est pas cher.
Mais voilà, clin d'œil fait à Stéphanie L et à Richard Kaya. Vous vous retrouvez donc ensemble sur scène avec toute cette troupe. Le sentiment, le plaisir d'être une troupe, vous l'avez bien précisé. Et pourtant, être seul en scène, c'est aussi un plaisir. Aurore Auteuil.
Oui, mais c'est fabuleux de pouvoir avoir des amis qu'on retrouve tous les jours et d'avoir une espèce de famille.
Et voilà. Vous êtes en train d'écrire un nouveau spectacle ou pas pour vous?
Je vais m'y atteler.
Je la pousse.
C'est-à-dire que c'est pas le cas?
Bah, pas trop le temps là, mais je...
Mais quelles sont vos envies alors professionnelles?
Bah, j'aimerais jouer bien évidemment et continuer d'écrire, c'est sûr.
Et vous n'imaginez, enfin, vous préférez écrire et jouer ce que vous écrivez, c'est-à-dire que vous faites du sur-mesure.
J'aime tout, moi.
Ou est-ce que c'est une manière finalement de se trouver du boulot quand on est en train d'attendre une proposition?
Le fait d'écrire, c'est vous donner du travail à vous-même. Ouais. Voilà, et du coup, on existe.
Daniel Auteuil, le 20 mars, vous serez à l'affiche du film « Qui m'aime me suive » de José Alcala, une comédie dans laquelle vous jouez aux côtés de Catherine Fro.
Oui, Catherine Fro et Bernard Lecoq, c'est une espèce de
quoi, retraité?
Non.
Pardon.
Non, on ne s'arrêtera jamais. Non.
Non, mais j'ai l'impression que dans le film, en tout cas, vous...
C'est pas, il est pas retraité, il travaille, il fait des trucs. Non, c'est trois vieux qui déraillent, quoi. Voilà, c'est les valseuses façon pour les plus anciens, les valseuses, c'est l'aventure de trois personnes qui s'aiment passionnément.
D'accord. Et puis vous serez dirigé par un ancien camarade d'école de votre fille, Nicolas Bedos, dans La Belle Époque.
Oui, absolument. Film formidable.
Avec Guillaume Canet, Fanny Ardant, ouais. Pierre Arditi, joli casting.
Oui, très joli casting.
Vous l'avez tourné ou vous allez le tourner?
Non, c'est fait, tout ça est fait. Tout ça est fait. Donc pendant ce temps-là, tranquillement, nous serons au théâtre en attendant.
Parfait. À partir du 25 janvier, au Théâtre de Paris, des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh, il y en a beaucoup. Désolé en premier pour les fans de l'œuvre de Molière et de la carrière de Daniel Auteuil, qui nous ont reproché d'avoir consacré 12 minutes à la nouvelle passion de Daniel Auteuil, à savoir la guitare. C'est vrai, c'était long. Très long. Longuissime. Désolé pour les fans de l'œuvre de Molière et de la carrière de Daniel Auteuil qui nous ont reproché d'avoir consacré 17 minutes aux flatulences et autres soucis gastriques de Nagui. Alors c'est vrai que c'était gênant. Très gênant. Gênantissime. Désolé pour Aurore Auteuil qui a découvert avec Guillaume Auguise un maître, un héros en matière de diction maladroite et gênante. Ça reste flippant. Très flippant. Flippantissime. Désolé pour le jardinage, l'urticaire et tous les mots de la langue française qui ont été malmenés, souillés, violés, tambourinés par Leïla et Daniel Auteuil. Et encore, j'ai pas compté les fautes d'Aurore et de Guillermo. Et pour cause, je ne comprends pas quand ils parlent. C'était habitable, très habitable. Habitablissime. Et bien sûr, désolé pour...
On écoute du chant grégorien.
Écoutez ça.
Moi,
oh putain.
C'est moche, Daniel. C'est très moche. C'est même mochissime.
Merci, Daniel Morin. Merci, Aurore. Merci, Daniel Auteuil.
Merci beaucoup. Merci.
Merde. Au Théâtre de Paris, à partir du 25 janvier, le Malade Imaginaire à voir absolument, à redécouvrir. En tout cas, ça fait du bien. C'est une très bonne idée de remettre au goût du jour cette pièce qui reste intemporelle. Passez une très bonne journée. À demain avec Daniel. Avec Danny Boone, pardon, et Valérie Bonneton, tout de suite, et Carnet de Campagne.